Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. On vous l'avait promis et c'est un honneur, un privilège pour nous autres d'être en mesure de lui parler dans son horaire méga chargé, étant donné qu'il collabore à toute la programmation olympique du côté de Radio-Canada. Vous pouvez le voir, entre autres, tous les soirs aux côtés de France Beaudoin pour suivre les Jeux olympiques. Un passionné, un athlète qui est devenu un grand communicateur. Dom Gauthier, comment est-ce qu'il va?
Eh bien, merci, là, puis privilège partagé. Là. Écoute, je suis tellement content de vous parler. Voyons.
Toi, ça doit aller vite de ton bord depuis que c'est décollé, là?
Ouais, là, c'est sûr que ça, c'est un peu la folie, là. Puis, tu sais, je le fais à chaque Olympique. Hein. Moi, là, on n'est pas sur place, on est à Montréal.
Ouais.
C'est un horaire différent. Mais à toutes les fois que j'arrive au jeu, là, tu sais, le monde me demande, OK, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Là, faut pas que tu oublies que faut que tu dormes. Puis là, je dis, non, oubliez ça. Là, moi, je vais me coucher dans 3 semaines. Et là, je suis ici pour parler des Olympiques, puis utilisez-moi. Ben là, ça fait comme 4 Olympiques que je dis utilisez-moi. Alors là, je te confirme qu'ils ont compris.
Mais tant mieux, tabarnouche.
Aïe, tellement aïe. Bien ça. De moi, chaque fois, là, je te vois aller. Puis, tu sais, entre autres, t'es très utilisé sur leurs médias sociaux. Puis
en plus,
chaque fois que tu as une clip à faire sur quelque chose, on a parlé beaucoup de Lindsay Vonn dans les derniers jours, puis il y avait l'espèce de débat à savoir sa décision de faire sa descente, est-ce que c'était de l'orgueil mal placé ou encore c'est juste le feu d'une athlète, puis je pense que tu es la personne qui l'a le mieux exprimé. Hein?
Ah non, merci. Ouais, non, moi écoute, je trouve que c'était la bonne décision, puis qu'elle aurait vécu plus de regrets de ne pas le faire que les regrets qu'elle a peut-être. En fait, elle n'a pas de regrets aujourd'hui, je suis certain. Et son retour était authentique. Elle l'a prouvé en ayant gagné tant de médailles avant les Olympiques. Puis là, regarde, quand l'équipe médicale te dit que c'est possible, puis son genou n'était pas enflé, naturellement, skier sans ligament croisé antérieur dans une piste comme celle-là, parce que ça, il faut comprendre que sur une piste de descente normale, disons, elle aurait eu plus de chances. La piste à Cortina là, est complètement folle. Il y a eu des changements de température extrêmes. Ça fait que c'était déjà un parcours bosselé. Et là, ben les bosses, quand ça devient un peu plus mou et que la nuit, il fait froid, ça devient à peu près pas skiable. Fait qu'il n'y avait rien qui a joué pour elle cette journée-là, malheureusement.
3 médailles olympiques pour le Canada jusqu'à maintenant. Je sais que tu avais des aspirations très élevées pour cette séance olympique hivernale. À date, on est-tu en respect avec ton pace? On a-tu de l'avance, du retard? Faut-tu paniquer? Faut-tu applaudir? On est rendu où, là?
Ouais, c'est toujours stressant le début pour le Canada parce que à chaque fois dans l'horaire, c'est pas des journées où on a beaucoup de chances de médailles. Mm-hmm. Donc, à date, on a aucune déception ou en fait, je vais parler au jeu. Là. Moi, les prédictions que j'ai faites à date, il n'y a rien qui est arrivé qui était une déception ou qui n'était pas prévu. La plus belle pour moi, celle que je souhaitais, autant que celle qu'on va peut-être parler de Dylan Deschamps qui va compétitionner lui dans quelques jours, en fait le 17 février. Mais commençons par le début. Le jour 1, c'était Valérie Maltais.
Ouais.
Au 3000 mètres en patinage de vitesse longue piste, puis je vous en avais parlé quand je suis allé vous voir il y a quelques semaines. Honnêtement, là, elle, autant que je veux celle de Dylan Deschamps pour lui, parce que, bon, un humain extraordinaire qui l'a arraché pour se rendre là, elle, ce que je voulais à tout prix, c'était de prouver que lorsqu'on fait des choses différentes, qu'on ose prendre des chemins que dans la culture de notre sport, on ne prendrait pas normalement, pour moi, là, c'était cette médaille-là qui venait prouver que c'est de même qu'il faut agir si on veut gagner. Je m'explique vite. C'est juste qu'elle, en gros, ce qu'on a décidé de faire avec Valérie Maltais, c'est d'amener un entraîneur de cycliste, donc un physiologiste qui travaille avec les hommes et les femmes qui font le Tour de France, ou Magdalene Vallière, qui est la championne du monde en cyclisme cet été. C'est lui qui l'entraîne. Lui, ce qu'il a fait, il a analysé tout ce que l'entraîneur et Valérie Maltais avaient comme données pour le 3000 mètres, parce que là, l'objectif, c'était 3000 mètres, médaille. En fait, on se disait entre nous, médaille d'or, parce qu'il faut viser l'or si on veut se ramasser sur le podium. Mmh. Et lui, il revient les voir, puis il dit, écoutez, vous ne faites pas la bonne chose. Si vous voulez qu'elle gagne une médaille, voici ce que vous devriez faire. Et puis là, c'est un gars qui, normalement, travaille avec des cyclistes, qui vient dire à des patineurs, vous ne faites pas la bonne affaire. il fallait une ouverture d'esprit.
Oui, hein?
Ils l'ont accepté. On a tout changé. On l'a mis dans des zones quasiment inhumaines. Là. Tu sais, c'était c'était vraiment tough pour Valérie.
Qui sont les plus rébarbatifs, Dominique, quand on arrive avec des propositions comme ça? C'est-tu des entraîneurs qui, depuis des années, suivent le même pattern, le même plan de match, puis qui sont convaincus que c'est de même qu'on va y arriver et pas autrement? C'est-tu des athlètes qui se disent « Bon, ben là, tabarnouche, on a tout le temps eu une certaine façon de faire les choses, on prend un gros risque. » Puis est-ce qu'il y en a des gens qui sont rébarbatifs à ça, où il y a plus d'ouverture que je peux présumer, mettons, là?
Denis, on dirait que à chaque fois que je fais une entrevue avec toi, on dirait que je t'ai envoyé mon script d'avance pour que je puisse te positionner.
On est fusionnel, Dom. On n'a aucune raison d'être fusionnel, mais on est fusionnel pareil. C'est bizarre.
Deux gars en luxe. Incroyable.
Parce que, puis je vous confirme, les gens à la maison ou dans votre auto, qu'on ne se parle même pas avant.
Non.
Puis j'en vois rien non plus. Donc, c'est capoté parce que tu as tellement raison. C'est ça. C'est qu'il y a des entraîneurs d'expérience qui sont là depuis 20-30 ans. Eux, là, sont tough à faire changer d'idée. Mm. La beauté avec Valérie, c'est qu'elle a un coach qui est jeune. C'est Mounsef, son nom.
OK.
Je me rappelle même plus son de famille présentement. Mounsef, il s'entraîne, il travaille avec des athlètes à l'Oval, à Sainte-Foy. Lui, il est un athlète, là. Il a pris sa retraite il n'y a pas si longtemps. Donc, effectivement, un jeune coach qui commence et normalement, plus ouvert, s'il est confiant en lui. Il y a des gens qui sont juste pas confiants, puis c'est là où, quand on n'est pas confiant, on va se camoufler dans la masse, on va faire la même chose, peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, puis comme ça, si ça marche, ben super, puis si ça marche pas, ben tu te fais pas taper ses doigts. Mm. Là, il y avait des risques. Écoute, si Valérie, elle aurait fini 10e, là, tout le monde aurait dit que c'était de la merde, puis que c'était la pire décision, mais pour moi, je savais que c'était la chose à faire, fallait l'essayer, puis là, regarde, c'était vraiment spécial. Fait que voilà pour Valérie Maltais, c'était...
Dominique, je veux ouvrir une parenthèse avec toi parce que ce matin, très tôt, avant d'aller porter les kids à l'autobus, on a regardé la médaille en relais patinage de vitesse. Ouais. Puis j'ai fait réaliser aux gars, ils disaient, hey, ceux que vous voyez là, avec le maillot du Canada, ils s'entraînent au centre de glace ici à côté, là. Où est-ce qu'on va jouer au hockey une fois de temps en temps? Ah oh, ouais, il dit oui, oui, oui. Il dit, quand papa il était jeune puis qu'il a commencé à faire de la radio à Québec, ça n'existait pas, là. Puis là, ben ouais. les meilleurs. Mon ami Dominique Gauthier, qui est olympien et athlète, faut pas manquer une bonne impression d'impressionner les enfants. Il dit, il nous l'avait dit là, que les meilleurs viendraient s'entraîner ici à Québec, puis là, ben on voit les résultats. C'est toujours fascinant de voir à quel point les yeux de deux enfants s'écarquillent quand ils réalisent que c'est à la portée de ceux qui vont mettre les efforts. Puis j'ai l'impression que...
C'est tangible, hein?
Oui, ça amène un côté tangible. Puis j'en parlais tantôt pour la musique, j'en parlais pour les bracelets multicolores de Pixmob, qui était à la mi-temps du Super Bowl, à la cérémonie d'ouverture en Italie. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus de frontières à partir du moment où tu y crois, mais le fait d'avoir une infrastructure de cette grandeur-là, ben ça fait en sorte que tu dis, ben ça, écoute, ils sont littéralement boostés avec notre pain puis notre beurre. Là.
Ben oui, tellement. Puis ça sert à tout le monde. Moi, j'adore l'exemple de l'anneau de glace intact à Québec parce que oui, ça a été construit avec l'idée d'offrir à nos meilleurs patineurs, à des champions, futurs champions olympiques, un endroit extraordinaire. Mais ça sert à tout le monde. Donc, c'est aussi...
On fait nos matchs de hockey boulevard-là, là, puis on n'a pas des bedaines d'athlètes, là.
Puis, tu sais, des fois, on me disait qu'il y a 300 personnes dans l'anneau là, qui sont là en même temps. Ouais. Donc, non, ça sert au bout. Donc, c'est merveilleux. Puis, on voit, souvent, regarde même, pratiquement la moitié de l'équipe canadienne est représentée par des Québécois, alors qu'avant, on avait un ou deux qui faisaient partie de l'équipe. Donc, ça a tout changé. Donc, les infrastructures, ça sert. Oui, au début, on dit, ah, c'est trop cher, tout ça, mais... À un moment donné, il faut évoluer, il faut progresser, puis tant mieux quand c'est quelque chose comme ça qui, comme je le disais, sert en plus à tout le monde. Donc, c'est une belle histoire, tout ça.
Bon, là, à partir du moment où j'ai dit à mes kids que je connaissais un athlète, un Olympien, puis qui travaillait à Radio-Canada, ils m'ont demandé de te poser une question, fait que je...
Ah, cool, j'aime ça!
Ouais, là, Doom, là, quand est-ce qu'ils vont changer ça, les courses de patins de vitesse, où ils se rentrent toutes dedans, puis c'est pas de la faute de la personne qui se fait rentrer dedans, ça se fait sortir de la course.
On s'est obstiné tantôt là-dessus, j'ai dit de te poser la question.
Là, c'est les patins tamponneurs. Là. Ça marche pas. C'est injuste, ça. Puis le Canada a évité la catastrophe.
Ouh! Hein? Que c'était proche. C'est sûr que là, C'est drôle, je hey, on a un parti pris quand même. Là.
Ben oui, j'avoue ben
que
oui.
Si c'était arrivé et on avait été pris, je serais là en train de tout défoncer. m'a t'avoué que là, j'ai comme fait assez plate en tabarnouche, mais.
Pour les autres, oui.
Pour les autres, c'est terrible. Mais ce sport-là, qu'est-ce que tu veux, on aime et on n'aime pas pour les mêmes raisons. On dirait, c'est le fun d'avoir une course où c'est excitant, mais ça fait que justement, il arrive des fois où tu tombes et c'est même pas de ta faute. On le voit même aussi des fois dans les faux départs qui sont causés dans par d'autres athlètes des fois, où tout le monde est cop. Moi, je pense, moi, c'est des courses. J'aime mieux qu'il y ait des fois des choses qui sont injustes. Une fois de temps en temps, là, ça arrive quand même pas si souvent. C'est sûr que quand ça arrive, on le voit parce que on en parle. Mais
tu vois, ma lecture d'homme, moi, c'est que oui, ça fait partie du risque, mais d'un autre côté, c'est en ayant tous ces compétiteurs-là sur la glace que tu te tires vers le haut. Je faisais le parallèle avec la médaille que Valérie Malte a gagnée. Si ça n'avait pas été de sa course, l'Italienne qui était contre elle n'aurait jamais eu la médaille d'or. Parce que d'avoir une aussi bonne compétitrice, ça va faire que tu vas te pousser bien plus. Je vois la même chose dans le relais mix, là.
Ben exact. Puis y a de la stratégie, il y a des trucs qui s'installent, faire sortir les autres de leur zone. Et donc, dans toute discipline où c'est une course, puis qu'il y a de la stratégie, puis que des fois tu te tiens un peu plus par en arrière ou que tu agis même comme si tu n'es pas fatigué ou que tu prends une ligne différente pour venir peut-être bloquer quelqu'un. C'est ça, il va arriver des catastrophes. Puis là, tant mieux, aujourd'hui, ça ne nous a pas dérangé trop. Puis on part avec une belle médaille d'argent. Donc, pour eux, je pense que pour certains dans l'équipe, il aurait aimé mieux que ce soit une médaille d'or. Mm-hmm. Pour d'autres dans l'équipe, ils étaient très contents et pleuraient de joie d'avoir une médaille d'argent. Donc, pour moi, ça augure bien. C'est vrai qu'on voulait l'or, on se comptera pas de menterie, mais c'était quand même une belle médaille d'argent pour eux. Je ne dirais pas que c'est une déception, loin de là.
Donc, dans les derniers jours, on a la conversation sur la luge. Et tout sport connexe. Et ce qui revient beaucoup quand on en parle, c'est comment tu te retrouves à faire ça aux Olympiques, mettons, parce que c'est pas un sport qu'on fait au quotidien, celui-là.
Es-tu une athlète qui décide dans sa vie, je vais gagner des médailles en luge, ou c'est quelqu'un qui le spot en disant, toi, tu serais bon sur un traîneau?
C'est sûr que si tu fais la soirée des dames à la piste de luge, il n'y arrivera pas grand monde. c'est pas très sociable comme sport. Mais il n'y a pas de... Tu sais, des pistes, il n'y en a pas... Tu sais, il y en a une au Canada, elle est à Whistler. Je suis en train d'hésiter là, parce que j'ai envie de me laisser aller. Fait que je vais me laisser aller. C'est un sport qui est dominé par les Allemands. Qui est contrôlé par les Allemands. Et donc, ça fait qu'il y a très peu d'autres pays qui peuvent être compétitifs.
Okay.
Où je m'en vais? Là, finalement, je t'ai dit que j'avais 15 minutes, mais je vais partir pour un autre 5 minutes. OK? j'ai aucun problème. Bon, il y a ces disciplines-là. Des fois, on me dit c'est un peu bizarre. Pourquoi ça, si, ça? Bon, OK. Il y a une piste de bobsleigh. Puis honnêtement, ça a quand même une bonne audience. Fait qu'il y a des gens qui aiment ça regarder ces courses-là. Ça me dérange,
c'est quand on commence à... On attend que quelqu'un se plante, c'est pour ça.
Ouais, des fois. Puis là, on ajoute des événements, des épreuves. Tu sais, le double en luge couché un par-dessus l'autre. Je pense que ça, on aurait pu oublier ça. Là.
C'est spécial.
Ils sont vraiment collés un... Ils sont empilés. Ils font une sandwich. C'est ridicule. Mais ça, c'est là où ça me dérange. Moi, j'aurais gardé la luge comme elle est, le skeleton, puis le bobsleigh. Mais où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que lorsqu'on tombe dans ces disciplines-là où ça coûte très cher, pour construire des pistes, mais surtout pour les bobsleighs en soi. Mm-hmm. Les bobsleighs, ça coûte hyper cher. Et avoir un bobsleigh compétitif, là, il y a juste les Allemands qui peuvent en avoir parce qu'ils ont un deal avec les Suisses, des ingénieurs suisses qui sont des experts du métal, qui, eux, font des lames absolument performantes comme personne d'autre en fait. Et les Suisses, comme c'est quand même un petit pays sur la scène du bobsleigh, ben eux ont un deal avec les Allemands. Et donc, les Suisses font les bobsleighs pour les Allemands et les Allemands leur disent « Vous n'en vendez pas à personne d'autre. »
Bon, fait qu'eux autres font des F1 pendant que nous autres, on joue à Mario Kart, c'est ça?
Exactement. On est dans un traîneau à chien en arrière. C'est exactement ça. Non, mais c'est ça. Alors que moi, je dis « Si vous voulez sauver votre sport, parce que déjà là, c'est moi qui aide de la recherche et développement en F1. Ben OK, il y a des voitures partout sur la planète. C'est une économie en soi.
C'est plus tranquille, là, c'est traîneau, hein?
Aller chez Sport Expert, là, hein, ils vendent pas même des bobsleighs. Fait que, tu sais, moi, je mettrais ça tout le monde égal. Comme ça permettrait à tout le monde de pouvoir y aller plus pour les aptitudes de contrôle. Parce que c'est quand même... c'est pas facile de contrôler le bobsleigh. C'est moins facile quand même, ça en a de l'air. Mais tout le monde pourrait être quand même au moins équitable. Tout le monde égal, on pousse, puis les plus forts gagnent. Donc, pour moi, ça, ça me dérange. Puis la luge, en soi, c'est hyper, hyper, hyper dangereux. Si n'importe qui de nous autres, on embarquait sur une luge demain matin, on sort de la piste, on meurt. Oui. Par contre, en skeleton, ça, c'est l'inverse. Le monde pensait souvent qu'en skeleton, tu as la face vers le bas. Hey, ils sont malades. Non, non, un skeleton, là, si, regarde, n'importe qui de nous, nous quatre, là, on se met sur un skeleton, quelqu'un nous pousse, on va se rendre en bas. Ça va être tout croche, mais on va se rendre.
En vie.
Fait que, tu vois, c'est l'image. Donc, voilà, je sais même plus comment je suis parti avec tout ça.
Ils font-tu du skeleton à deux sur le ventre, un par-dessus l'autre? Pas encore?
Tu vois comment c'est. Ben, tu vois, Denis, ça, là, ça serait une belle façon pour moi si un jour j'étais représentant au comité international olympique puis que je serais dans le comité des nouvelles épreuves. Je dirais, voyez, vous les mettez de même en luge. Pourriez-vous les mettre en skeleton? Puis ben non, là, ça serait pas normal. Ben là.
Rendu là. Quand t'es obligé de sortir le Kama Sutra pour expliquer comment t'es vœux sur la luge, là, on a un problème.
Hey, dans mes autres questions diverses, Dominique, on dirait que depuis le début des Olympiques, on nous présente plein d'athlètes québécois et canadiens qui ne compétitionnent pas sous le drapeau canadien. Entre autres, on a des patineurs artistiques. En fait, c'est des patineurs artistiques français, mais c'est une Québécoise qui patine là. Ils sont actuellement en tête pour être touchés à la médaille d'or.
On a un patineur de vitesse qui représente Nicolas. La Pologne.
Oui, exactement. Ouais. Puis, on dirait qu'il y en a plusieurs. C'est-tu qu'ici, il n'y a pas de place pour eux ou encore ils ont simplement choisi de rayonner ailleurs?
Ben, c'est tout différent. Je vais prendre un de la région de Québec en ski de fond. Là. Nicolas, je n'ai pas son nom de famille en tête, mais c'est un skieur de fond de Québec. Et lui, c'est un Vénézuélien.
Il est né là-bas, là, il est parti tôt.
Exact, mais il a fallu qu'il retourne pour appliquer pour son passeport. Et ça, là, après ce qui s'est passé au Venezuela, imaginez-vous donc complètement capoté. Et il a eu son passeport. Donc, lui, il le fait naturellement pas pour aller gagner une médaille. Il avait accès à un passeport, il le fait. Il y en a d'autres athlètes comme ça qui choisissent de prendre un deuxième passeport. Ils sont déjà quand même, tu sais, c'est un gars qui fait du ski de fond, là, puis il nous clencherait pas possible, là, mais il est pas compétitif à l'international. Donc, ça, je trouve que c'est correct. Les Français que tu parlais en patinage artistique, ben là, il y a des décisions. À un moment donné, c'est des coupes. Alors, ils vont aller dans le pays où ça va être le plus favorable pour eux s'il y a deux athlètes de deux pays différents. Donc, c'est souvent ça qui arrive. Et au Canada, ben, on n'est pas les meilleurs pour supporter nos athlètes nécessairement. Donc, souvent, la décision qui est prise, c'est d'aller dans l'autre pays, malheureusement. Il y a un athlète qui est intéressant, vu que tu me parles de changement de pays. Je vous invite à aller le voir sur ses réseaux sociaux. C'est une machine des réseaux sociaux. C'est Lucas Pinheiro. Puis, demandez-moi pas de d'appeler son nom de famille, mais faites Brésil, skieur Lucas. Lui, il compétitionnait pour la Norvège. Il a gagné la Coupe du monde pour la Norvège, qui est un pays de ski. Il l'a gagné en ski à la discipline du slalom. Les meilleurs au monde, il était jeune. Puis là, ils ont voulu le forcer dans une espèce de carcan traditionnel très droit de la Norvège. Mais lui, c'est le plus créatif, le plus wild. Hey, il a pas allé voir son
look,
fashion. Là. Ouais. Ah non, la fashion à mort. Lui, il a compris c'était quoi la game. Puis il a du fun, il danse tout le temps. Olé, olé. Mais il y a une mère brésilienne. Alors, les Norvégiens voulaient le mettre dans un carcan. Il a dit, oubliez ça. Fait qu'il prend sa retraite. Il dit, moi, no way, je prends ma retraite. Là, on ne savait pas ce qui se passait. Et deux ans plus tard, on le voit ressortir comme étant un Brésilien. Puis là, il s'en va aux Olympiques. Il porte le drapeau brésilien. Mais ce n'est pas un touriste, on va vous dire. Il s'en va pour espérer gagner une médaille pour le Brésil puis danser la samba en bas de la piste. Donc, suivez ce gars-là. Il est vraiment spectaculaire.
Dom, je vais t'envoyer une balle courbe. Puis j'imagine que ta voix venir un peu parce que c'est une discussion qu'on a déjà eue ensemble à une autre époque. Les athlètes de la Ligue nationale de hockey sont dans le village olympique jusqu'à ce que le tournoi débute. On est content. Hey, les lits sont beaux, la bouffe est bonne, on fait la vague aux autres épreuves. Mais à partir de jeudi, gang, nous autres, on a de l'or à gagner. Puis on vous laisse, on s'en va loger dans les hôtels 5 étoiles de l'Italie parce qu'on a l'argent. Le Dream Team américain de la NBA avait fait la même chose aux Jeux olympiques d'été. Qu'est-ce que tu penses, premièrement, du fait qu'il y a des athlètes millionnaires professionnels qui se joignent aux Olympiques pour le meilleur et pour le pire? Et deuxièmement, est-ce que tous les athlètes devraient être logés de la même façon et nourris de la même façon au village olympique?
Denis, je te le jure, tu me l'apprends. Je m'en vais faire une chronique là-dessus tellement que ça m'écœure.
T'es-tu sérieux?
Sérieux, je savais pas.
Tu savais pas?
Je savais pas que ça en allait jeudi.
Oui, ben c'est ça qu'on a vu, nous autres, à date, à partir de jeudi.
C'est pas parce que je l'ai pas vu que ça existe pas, je te crois. Moi, je trouvais ça tellement beau qu'il est allé au Short Track. J'ai même écrit à des gens que je connais qui travaillent avec eux. Mm-hmm. Puis j'ai dit, hey, c'est cool que vous soyez allés là. C'était l'idée de qui et tout ça. Mais non, je savais pas qu'il quittait. Puis ça, honnêtement, je trouve ça vraiment poche, mon gars. Vraiment poche. Mais qu'il soit là, on est content. Moi, l'histoire des millionnaires, puis tout, j'ai passé par le saut au contraire. J'aime ça qu'il soit là. Ça amène plus d'attention.
Et enfin!
Mais là, non, c'est pas cool.
Écoute, ben, moi, ça a été ma première réaction quand j'ai lu là-dessus, puis je lisais les explications, c'est une décision d'équipe, l'or, c'est important, puis tout ça. J'ai dit, ouais, mais l'or est important pour l'équipe de hockey féminine, puis ils dorment au village olympique, puis ils font les affaires comme le font toutes les Olympiens. Je trouve... D'une part, je trouve que c'est un manque de respect, puis je te vois fulminer présentement.
Non, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Parce qu'il faut qu'ils comprennent là, que sur l'échelle planétaire aux Jeux olympiques, là, OK, c'est sont de deuxième niveau, moi, de dire ça de même. Pour les Nord-Américains, fine, vous êtes les héros, là, mais là, c'est les Olympiques du monde entier, OK? Puis Sidney Crosby, je suis désolé, là, mais il se fait moins reconnaître que Johannes Klebo, le skieur de fond sur, sur l'échelle planétaire. Puis, calique que ça me brûle qu'il y ait des... Non, moi, je trouve pas ça cool. Fait est-ce qu'on m'en avoir dit, je vais aller fouiller plus profondément.
Moi, je t'ai envoyé le lien d'homme. tu vas être correct.
Merci.
Mais est-ce qu'on devrait les obliger, les athlètes, à vivre le beat olympique dans le village olympique, quelle que soit la discipline, quel que soit le statut? Ouais.
Oui. Par contre, je vais faire un petit astérix à ça. C'est vrai que pour les joueurs de basketball, faudrait adapter les chambres, les lits.
Ils dépassent, hein, ouais. Mais c'est pas des jokes, c'est vrai.
C'est la seule affaire. Ouais. Wembanyama à 7 pieds 5, là, il peut pas dormir dans le village normal. Là,
ouais, je comprends, mais moi, j'ai vu des affaires aux derniers Jeux olympiques d'été. Faut-tu adapter les condoms aux perchistes français aussi? Là, je veux dire, c'est jusqu'où on va pour les accommodements,
peut-être.
Là?
Ouais. Il y aurait quand même une limite.
Hey, Dom, oui.
Wow, OK. C'est bon. Je vous laisse là-dessus. Je m'en vais investiguer. Mais
il est en maudit.
Ah, ouais, regarde, je le vois. Je suis désolé, je voulais pas te pomper. C'est notre première ensemble. C'était pas ça le but, là.
Oh, les. All right. Ah, salut.
Hey, Dom, si t'as d'autres questions,
Je veux qu'il gagne pareil. Hein,
oui.
Au Canada.
On est tous à la même
ça,
place.
C'est pas cool.
Si t'as d'autres questions, ces Olympiques, tu te gênes pas, tu m'écris, hein.
Merci, on s'écrit comme toujours.
Salut, Dom.
Notre ami Dom Gauthier sur le sentier de la guerre présentement du côté de Radio-Canada.
Pas des gens, hein? Il était physiquement en train de marcher vers les studios où il s'en va travailler dans la maison de Radio-Canada à Montréal.
Dom, je le connais, il y a un caractère là-dessus. Là. Puis là, je l'ai vu.
Il est tout comme un agneau.
Oui, mais là, il a switché. Là. Dom, il y a des principes, puis il y a des valeurs. Puis quand ça heurte ces valeurs-là, puis je pense que ce qui l'a peut-être fâché, c'est qu'il a aimé voir les joueurs de hockey s'intégrer, aller voir les activités, puis tout
encourager.
Ça. Mais il y a un petit fond d'hypocrisie quand, à partir du moment où toi, ta compétition commence, puis ça n'a pas changé, là. Je veux pas. C'est encore ça, je veux dire.
Qui ne dormira pas là?
Ouais.
Oui, tout à fait.
OK, c'est beau.
Tout à fait, ça n'a pas bougé.
Je voulais juste être sûr que je l'avais envoyé sur une bonne piste. Là, tant qu'à envoyer Dom Gauthier sur le sentier de la guerre, je veux que l'information de départ soit bonne. Là. Mais on en avait parlé en début de semaine, puis je pense pas que ça a été révisé. Ah, tabarnouche que je m'ennuie de jaser avec Dom. À chaque fois, j'apprends quelque chose, puis c'est toujours le fun d'échanger avec lui. Puis je sais que... Tu sais, on a eu cette conversation-là de par le passé. Les athlètes amateurs, c'est le spotlight une fois aux 4 ans, les Olympiques. Puis quand t'envoies les joueurs de hockey de la Ligue nationale, ben dans un pays comme celui du Canada, si t'es un patineur de vitesse, si t'es un skieur de fond, ben tu vois ton spotlight complètement diminué parce que Sidney Crosby va être là, puis Connor McDavid va être là, puis ainsi de suite. La moindre des choses, pour moi qui n'est pas un athlète, et pour Dominique qui en est un, clairement, si tu y vas, vas-y avec humilité, puis suis le beat avec le reste de la gang, bref. Je voulais le dire à Dom, fais-lui passer le message, Audrey. Dès qu'il y a du temps, si on peut jaser à tous les jours, moi je suis bien content, là, je ne sais pas c'est quoi l'entente, mais dès qu'il y a du temps, il peut nous appeler quand il veut, puis on va s'ajuster. S'il y a 5 minutes, on va y parler 5 minutes. S'il y a 15 minutes, on va y parler 15 minutes. Mais c'est toujours le fun de jaser avec Dom, puis en plus, il est dans le feu de l'action.
Pendant ce temps-là, c'est plus tough pour l'équipe féminine au hockey. C'est 3-0 pour les États-Unis, même dans les tirs au but, alors qu'on est en milieu de deuxième période. C'est dominé par les Américaines. Il semble y avoir une eu une controverse sur un début qui a été accordé, une des joueuses américaines qui aurait poussé la gardienne canadienne. On sait que la capitaine Marie-André et Philippe Poulin ne participent pas au match. Elle est blessée.
4-0.
4-0. Voilà, ça vient de se compter. On s'entend qu'actuellement, on n'est pas pour les médailles encore. On est encore dans les premières parties qui se jouent. Mais il y a une grande rivalité entre les deux équipes. Puis actuellement, il semble y avoir un petit stress.
Il reste 7 minutes à jouer à la deuxième période. Pile, précise. Et c'est sur le 21e tir que les Américaines ont marqué leur quatrième but, alors que le Canada peine à avoir 10 tirs en milieu de match. C'est une triste situation. Les Américaines qui semblent dominer ce match-là et profiter grandement de l'absence de Marie-Philippe Poulin. Est-ce qu'on a eu des indications qu'il y a du mobilier qui a été brisé à la Société Radio-Canada à Montréal pendant que Dom Gauthier était sur le sentier de la guerre?
Pas là où on se parle.
OK. Donc, faudra surveiller la situation dans les prochaines minutes. Puis j'ai hâte de voir si, comme par magie, il y a une chronique ou une un vidéo Instagram qui va faire son apparition dans les prochaines heures sur le sujet. Tu as envoyé le texte à notre chum Dom.
Dominique va aller aux sources aussi. Habituellement, il est bien plugué dans le domaine olympique.
Il est à 15h35. On va s'arrêter pas longtemps. Vous êtes à Boulevard 102.1. C'est Gravel dans le retour. Gravel. C'est un ennuagement graduel présentement à Québec. Et ce soir et cette nuit, je ne sais pas si vous avez des déplacements de prévu. Sinon, tant mieux. Neige et poudrerie par endroits. 5 à 10 cm de neige au cours de la nuit. Des rafales de vent de 30 à 50 km/h. Et c'est une mauvaise nouvelle qui en cache une bonne, c'est qu'essentiellement toute la neige va tomber cette nuit ou à peu près. Il en reste un peu demain. Faible neige, poudrerie par endroit en matinée. 2 cm supplémentaires. Toujours venteux. Des rafales entre 30 et 50 km/h. Pour ce qui est des températures, vous dire que le mercure ne bougera pas cette nuit. On reste à moins 8. Et à partir de demain, il y a un réchauffement. Maximum de moins 6 pour la journée de demain. On retrouve le soleil jeudi, vendredi et samedi avec des maximums de moins 4, de moins 6 et de moins 2 degrés.
Le carnaval est béni.
Oui, absolument.
Le tournoi Pee-wee est béni. Ça n'a aucun bon sens cette année.
Au nombre de fois où il tombe dans les pires semaines, les semaines de tempête, les semaines où tout est compliqué, cette année, c'est vraiment les meilleures semaines puis la température la plus extraordinaire que tu peux pas avoir pour profiter de l'hiver. Et la personne qui vous parle haït l'hiver de plus en plus.
Puis on a été... J'ai hâte de voir les chiffres de tourisme. Parce qu'on avait déjà eu les chiffres pour la période du temps des fêtes, puis on s'en était parlé. T'sais, pendant la période du marché de Noël allemand, ça avait l'air d'un film Hallmark, tellement que c'était beau avec la neige qui était déjà tombée, puis tout le kit. On a eu une période des fêtes qui a été spectaculaire. Tout le bout du jour de l'an, pas de pluie, pas trop de grand froid non plus. Puis encore là, pour la préparation du carnaval, t'sais, des fois, on avait des épisodes où ça se réchauffait, fait qu'on stressait pour le palais de bonhomme, on stressait pour les sculptures ou quoi que ce soit. Là, tout est parfait. T'sais. Oui. C'est dimanche, j'allais faire un tour, c'était la course de canot sur glace. Mm-hmm. Le monde qu'il y avait là-bas, mais la température était parfaite. C'était le gros soleil qui était là. J'en reviens pas comment cet hiver-ci, pour ceux qui veulent profiter des activités en ville, puis même le sport d'hiver, là, c'est absolument génial.
Notre ami Dom Gauthier, vous allez le réentendre pendant toute la période olympique. Puis il y a peut-être des gens qui se demandent, coudonc, êtes-vous allé à l'école ensemble?
Quasiment.
Non. En fait, on a fait de la radio ensemble à tous les jours pendant de nombreuses années, ce qui nous a permis de nous côtoyer pas mal. Puis c'est drôle parce que moi puis Dom, on se ressemble pas du tout, mais en même temps, on s'entend bien. Puis tu sais, ça s'explique pas. Ces choses-là, des fois, là.
Parce que je
suis probablement aux antipodes de ce qui est dans la vie à tous les jours, mais je pense qu'en même temps, on a comme des trucs. C'est dur à expliquer, mais on a tout le temps eu du fun ensemble, puis on retrouve ce fun-là à chaque fois qu'on se parle, même quand ça fait 4 ans qu'on ne s'est pas parlé.
Puis en dehors de la radio, tu ne l'aurais pas croisé sur des pentes de ski? J'en doute fort.
Non, absolument
j'essaie
pas.
J'essaie de voir où vous auriez pu vous croiser dans un vélo de montagne. Tu fais pas ça non plus.
Non. On a viré les petites brosses ensemble, le fun.
T'es-tu déjà allé aux Olympiques?
Je suis pas allé aux Olympiques non plus. Même pas pour les couvrir. Fait que ça te donne une idée. On va regarder l'essentiel de l'actualité. Et évidemment, juste vous dire, c'est ça que je voulais vous dire dans le fond, les chroniques, les conversations avec Dom Gauthier, vous allez les retrouver sur l'application Boulevard au blvd.fm également toutes les capsules qu'on va avoir le plaisir de faire avec le Chum Doom, qui a énormément de jobs, qui aurait pu nous dire non, mais il nous a dit oui parce que ça lui tentait de le faire. Puis on est bien heureux puis bien choyés de ça. Les nouvelles aujourd'hui, qu'est-ce qui retient l'attention en ce mardi? On est le 10 février.
Christine Fréchette, qui est candidate à la chefferie de la CAQ, a réussi à avoir l'attention sur elle cet après-midi en reparlant du programme de l'expérience québécoise. C'est le fameux programme dans lequel on met la hache pour passer à un autre programme, celui de sélection des travailleurs qualifiés. Ça fait que des immigrants temporaires qui sont au Québec, qui actuellement ont un emploi, pourraient se retrouver à devoir quitter le pays. Puis on en a entendu parler quand même pas mal dans les dernières semaines et les derniers mois parce qu'il y a des employeurs qui sont inquiets, des chambres de commerce qui sont inquiets, les maires sont inquiets. Bruno Marchand était très vocal par rapport à tout ça.
Je trouve ça inacceptable que ce soit un débat de société. Ça devrait être réglé depuis longtemps. Je comprends pas le temps que ça a pris et l'entêtement de la CAQ à vouloir absolument prendre du monde qui ont eu le temps de s'enraciner ici. Puis j'en connais, là, moi, j'ai des amis de ma blonde qui ils vont quasiment chercher dans la cuisine là, pour qu'ils retournent en France. Là.
C'est absolument...
Ça ne leur tente pas de repartir. Là.
C'est des gens qui sont intégrés, qui ont déjà un toit ici, qui ont déjà une vie, qui sont fonctionnels, qui pour la plupart parlent déjà français, les autres sont en train de l'apprendre.
Les politiques de Justin Trudeau, ce n'est pas de leur faute à eux autres.
Exactement. Puis avant les fêtes, on avait l'impression que c'était en partie réglé. Souvenez-vous quand François Legault, avant qu'il annonce qu'il allait quitter comme premier ministre, avait débarqué à l'Hôtel de Ville de Québec, il avait dit textuellement à Bruno Marchand: c'est Laval puis Montréal le problème. Pour les autres, il n'y en aura pas de problème. Il n'y a rien qui s'est passé.
Ouais.
Au retour des fêtes, François Legault annonce qu'il n'a pas l'intention de continuer. Il y a une course à la chefferie. Le ministre de l'Immigration, Jean-François Roberge, qui persiste et signe, il n'y aura aucun changement à la loi concernant ces personnes-là. Et là, soudainement, aujourd'hui, Christine Fréchette qui dit ben, « Si je deviens première ministre, je m'engage à réactiver le programme, le PEC, le fameux PEC en question, pour une durée de 2 ans pour accorder une clause de droit acquis à ceux et celles qui étaient au Québec, puis va réduire le nombre d'invitations pour ce qui est de l'autre programme pour que tout ça s'équilibre. Pourquoi la CAQ est tout le temps en train de baquer quand c'est rendu trop loin puis qu'ils perdent le contrôle d'une situation quand on pourrait régler plus tôt? Puis Christine Fréchette fait tout autant partie du problème que le François Legault auparavant. Là.
Ça, c'est quelque chose qui aurait pu se régler rapidement. Puis si tout le monde aurait voulu bien paraître, tu fais un point de presse, François Legault, Bernard Drainville puis Christine Fréchette qui annoncent la même affaire, disent « Regarde, on va se concentrer sur d'autres enjeux parce que celui-là, on va le régler et on va le régler tout de suite. »
C'est pour ceux qui ne voient pas l'ampleur que ça pourrait avoir. Puis, tu sais, un peu plus tôt aujourd'hui, tu avais le député du PQ, Alex Boissonneau, qui disait « Ah, oh, les villes, ils demandent ça, là, le PEC, mais ils ne savent pas à quel point ces immigrants-là mettent une pression sur nos différents systèmes. » Il faisait référence à tout ce qui est le logement, la santé, les écoles. Mais c'est des gens qui sont déjà ici.
Mais c'est ça.
Puis, tu sais, je comprends la fameuse guéguerre Ottawa-Québec en disant « Oui, mais c'est les cibles d'Ottawa qui sont trop élevées. »
C'est pas de la faute aux gens qui sont ici.
Puis la réplique, entre autres, de Bruno Marchand là-dessus, ça a été de dire oui, il a raison, il va y avoir des impacts, mais l'impact, c'est que si ces gens le quittent, c'est dans les RPA où on va manquer de monde, c'est dans les hôpitaux où on va manquer de monde, c'est dans les cafés, les restaurants, dans différentes entreprises.
Il y a quelqu'un qui nous a écrit tantôt, je ne sais pas si je suis capable de le retrouver. Oui, mon père fait de la dialyse. Dans le secteur où il a ses traitements, il y a 5 infirmières qui risquent
c'est
de
terrible.
Devoir quitter le pays. Qui va s'occuper des traitements si le personnel qualifié quitte? Puis ça, c'est un problème parmi tant d'autres. Puis Claudia a une image qui fesse fort sur les textos au 88-971-1021. Elle dit, ironiquement, on fait comme le ICE sans la violence, mais on part à la chasse aux immigrants pareil, de façon injuste.
Puis pendant des années, il y en a qui se plaignaient. Ah, ils sont pas capables de s'intégrer. Arrêtez de parler au « on » de « un ». Puis c'est des gens qui travaillent chez nous. À Québec, on a un taux de chômage qui est tellement bas, on serait tellement dans la merde si c'était pas de ces 13 000 personnes-là. Mais encore une fois, du côté du gouvernement...
Ils volent pas la job à personne.
Non,
je veux dire, les gens présentement qui travaillent pas, c'est les gens qui choisissent de ne pas travailler.
Parlons de la chefferie du Parti libéral du Québec. Vous savez ben oui.
Okay.
Ben ça achève. Hein. Ça se termine bientôt parce
c'est les courses à chefferie les plus plates de l'histoire de l'humanité qu'on est en train de vivre.
La bonne nouvelle, c'est que vendredi, on devrait être en mesure de confirmer que Charles Milliard sera le chef du Parti libéral du Québec. Mais tu sais, Mario Roy a vu sa candidature refusée par le parti.
Encore, là?
Mais il veut encore.
Ah, oh, come on!
Il essaye encore de persister pour aller chercher les signatures et l'argent avant ce vendredi-ci. S'il est capable, ben, il y aura une véritable course à la chefferie. Oh, sinon, il y aura un couronnement.
C'est triste et lourd. Là.
C'est triste, c'est lourd. Il ne semble pas y avoir d'appui parce que personne l'aide financièrement, personne l'aide sur les signatures. On sait qu'à la dernière course à la chefferie, il n'avait même pas touché le 1% pour ce qui est du vote des membres.
S'il avait voulu de ce gars-là, il l'aurait rentré à grands coups de brownies. Là. Ben, on sait comment ça marche chez les libéraux.
La machine libérale, ce serait effectivement... organisé mais pour l'aider à travers tout ça. Fait que c'est un peu poche. Parlons du pont Gordie Howe dont on s'est mis à jaser au courant des dernières heures alors que c'est quelque chose d'acquis. Là. Il était censé ouvrir à la fin 2025, il va ouvrir à la fin au début 2026. C'est ce qui relie le Canada avec le Michigan. C'est un pont qui en partie a été fait à Québec chez Canampon. Mais c'est Trump au courant de la nuit qui a dit « ça n'a pas de bon sens, ce pont-là ne doit pas ouvrir, le Canada nous en doit ». Vous connaissez le fameux laïus de Trump depuis quelques mois. On a l'impression qu'il passe ses soirées avec des lobbyistes.
Ben, c'est pas un laïus.
Il passe des messages.
C'est rendu ce qu'on appelle du délirium tremens.
Peut-être, effectivement. Il dit, j'ai expliqué au président que le Canada a payé pour le pont. Ça, c'est Mark Carney qui a parlé de sa discussion qu'il avait eue avec Trump, que c'était une propriété partagée entre l'État du Michigan et le gouvernement du Canada. Et ça, c'est l'autre sortie qui a été faite un peu plus tard aujourd'hui. C'est des élus démocrates au Michigan qui sont sortis en disant « Hey, le pont va ouvrir. On a besoin de ça. On a payé pour. Ben, c'est notre partenaire commercial. »
C'est la guerre interne que livre Trump depuis le début de son deuxième mandat. C'est la même chose au Minnesota avec la police qui tire d'en face des civils. C'est parce que c'est un État démocrate avec des dirigeants démocrates. C'est une guerre interne qui se déroule aux États-Unis présentement, pas mal plus qu'une guerre externe. C'est pour ça que je vous le redis, soyez pas trop inquiète que ça éclate ailleurs. La première affaire qui va péter, c'est les États-Unis, puis ça va être une guerre civile.
Dans les autres petits dossiers, puis je l'ai trouvé somme toute assez lourd, il y a il y a eu une agression à l'arme blanche dans une cour de polyvalente à Arvida, au Saguenay. Puis tu sais, on entend parler de certains événements comme ça. Ça s'est déroulé vers 8h40, les policiers qui ont été appelés sur place. L'agresseur dans cette histoire-là a été localisé dans une classe et c'est là qu'il a été maîtrisé. On a peu de contexte par rapport à ça, mais il y a quand même eu un confinement de cette polyvalente-là pendant quelques heures. Ça vient tout juste de sortir en une du soleil. Le maire Bruno Marchand qui a l'intention de contester la poursuite intentée contre lui par la citoyenne à qui il a reproché de faire un salut nazi l'année passée au conseil municipal.
Moi, j'espère juste que l'essentiel du procès, ça va être des photos puis que les gens devront décider si c'est un salut nazi ou pas.
C'est la semaine dernière que la citoyenne Vicky Lépine a annoncé qu'elle allait vers les tribunaux avec une somme de 400 000 $ qui est réclamée en dommages moraux et punitifs. La ville qui n'avait pas répondu à ce moment-là en disant « ben là, c'est judiciarisé, on ne peut pas rien dire ». Et là, aujourd'hui, Bruno Marchand a informé que ses avocats avaient répondu au cours des derniers jours à la demande introductive d'instance en dommages et intérêts devant la Cour supérieure.
Est-ce que Bruno Marchand se défend avec son argent personnel ou c'est la Ville de Québec?
J'imagine que c'est la ville. Hey, je ne sais pas, c'est une bonne question.
Si c'est la ville, ça ne devrait pas être la ville. Parce que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a un conflit personnel entre ces deux personnes-là. Puis s'ils veulent s'ostiner en cour à grands coups d'avocat, pourquoi est-ce qu'on aurait à payer pour ça, nous autres? J'espère, ça vaut la peine peut-être...
Ça semble être ses avocats.
Peut-être envoyer notre ami Mathias poser cette question-là à la Ville de Québec pour avoir la réponse rapidement. Tu l'as?
Je l'ai. Il convient maintenant que cette cause sera associée à une forte facture alors qu'il sera représenté par des avocats de la Ville de Québec pour le défendre. Ça va coûter malheureusement très cher, admet M. Marchand.
C'est pas à nous autres de payer ça. S'il veut continuer dans des procédures et des contre-procédures judiciaires, qu'il le fasse à titre personnel. C'est un conflit personnel entre deux personnes qui a éclaté de cette façon-là, mais il y avait un build-up. Les contribuables n'ont rien à voir là-dedans. Fait que à vérifier et à éclaircir, parce que c'est peut-être un bon dossier pour l'opposition également. Ça, en passant, là, je pense que la Ville de Québec n'a pas à payer pour des chicanes d'égo puis des chicanes de cours d'école.
C'est parce que oui, il y a le titre de maire.
C'est pas une raison.
Il reste que le fait de ne pas s'excuser immédiatement, c'est lui comme personne.
Oui, puis si tu décides de... Parce que là, c'est quoi sa décision? C'est de contester.
Oui.
C'est à partir de ce moment-là, réglez vos affaires avec votre argent. Tu sais, si le maire se sépare, puis qu'il y a un conflit, ça garde des enfants, mettons, là. Tu sais, on est dans l'hypothèse, là. C'est pas nous autres qui va payer pour ça. C'est une chicane personnelle, ça, qui règle ses affaires, avec respect.
Mais c'est dans le cadre de ses fonctions, j'imagine que c'est eux-mêmes qui vont le...
Ouais, mais non. Ouais. J'ai bien de la misère à le voir autrement qu'un conflit personnel. Qu'il soit maire ou qu'il soit pas maire, c'est pas à nous autres de payer les conséquences du fait qu'il est maire puis que ça se déroule à l'hôtel de ville, là. En tout cas, moi, c'est mon feeling. D'autant plus que ça va coûter cher et qu'on essaye de farmer des patinoires à Québec. Là. Je pense qu'on peut... Vois-tu? C'est un judgment call, ça, qui serait facile à faire de la part du maire, de l'annoncer tout de suite. Dire, regarde, j'ai une affaire personnelle, j'ai un conflit personnel à régler.
Inquiétez-vous pas.
Avec une dame, je vais payer mes affaires. Parce que présentement, à Québec, j'ai des documents de travail qui disent qu'on va fermer des patinoires puis qu'il y a du monde qui n'auront pas de place pour les camps de jour. Je demande aux citoyens de faire leur part. Je vais faire ma part aussi. Judgment call. On va vérifier ça avec Mathias, premier juré. Puis dès qu'on a plus de détails, on va vous les donner. D'ailleurs, si vous voulez écrire à Mathias, notre journaliste terrain, on a une adresse juste pour ça. Citoyen@blvd.fm. Puis ça peut être des questions de ce genre-là, là, des choses que vous avez entendues, que vous voulez vérifier sur la ville, le gouvernement, whatever. Problème. Hey. T'as-tu vu l'histoire des chiens errants? T'as-tu lu ça aujourd'hui?
Non.
C'est dans une municipalité de la Mauricie. T'as un gars qui attache pas ses chiens. Il en a 8, sont gros, ils vivent en meute, puis ils terrorisent une municipalité.
Puis il n'y a pas de réglementation contre ça?
Ça a l'air plus compliqué qu'on pense.
Mais voyons.
Là, la Société protectrice des animaux est dans le dossier. Le gars accumule des contraventions depuis 3 ans. Il les paye, mais il ne change rien. Puis pendant ce temps-là, ben, y a des petites familles qui s'empêchent de sortir dehors parce qu'ils ont peur des chiens. Des chiens qui ont attaqué des animaux, qui ont blessé d'autres chiens.
Qui font signe de violence.
Puis le gars va passer en cour pour des menaces de mort parce qu'à un moment donné, il y a un gars qui a ramassé un de ses chiens puis il est allé le menacer de mettre le feu à sa maison puis de tuer sa famille.
Ah,
bien voyons. Tu vois que le gars a énormément de problèmes entre les deux oreilles, mais ça a l'air compliqué à gérer alors que, pour reprendre une expression forte au hockey de chez nous, dans mon livre à moi, t'envoies 2 polices avec un taser, puis on va régler le problème assez vite, là.
Ben voyons donc.
Tu l'as, l'histoire?
Oui, je suis en train de regarder c'est ça, dans, c'est à Charrette.
C'est dans quelle municipalité?
C'est le secteur rural de Charrette.
Charrette.
Oui.
Première fois que j'entends parler de cette municipalité-là.
Un village de la Mauricie, pas très loin de Saint-Élie-de-Caxton.
Oui. Puis le nom du gars est connu, puis tout le monde sait que c'est à lui et chien, mais ça a l'air que ses chiens ont le dernier mot à date, puis la Société protectrice des animaux... Bon, là, on peut pas vous en parler, mais on fait beaucoup d'interventions, puis c'est plus compliqué qu'on pense. Hey, si c'est un problème de santé mentale, ramasser les chiens, là.
C'est parce qu'ils vivent en meute.
On peut-tu protéger le monde, s'il vous plaît?
Ils sont retournés à vivre en meute parce qu'ils justement, ils n'ont pas de contraintes.
Parce que lui, s'en occupe pas tant, là, de ce qu'on comprend. Le fait que quand ils ont faim, ils s'en vont battre les autres chiens, puis ils s'en vont se promener ailleurs. Hein? Oui, puis c'est sûr, des fois, c'est sur plusieurs kilomètres à la...
C'est ça que je viens de voir, là.
À la ronde, là.
5 à 6 kilomètres plus loin.
Comment ça se fait que c'est compliqué, un dossier comme celui-là? Je comprends pas. S'il y a des gens qui sont en mesure de me donner... il y a des gens qui auraient des moyens assez expéditifs de régler un dossier à partir du moment où ils sentent que leurs enfants sont pas en sécurité. Là. Je suis en train de lire des messages. Là. M'amener un chien fou... Je suis pro-animal, là.
Non, ben il y a des limites quand même. Là. Je veux dire, je suis pro-animal aussi, là, mais il y a une foutue limite. Là.
Hey, d'ailleurs, vous avez peut-être vu la bonne nouvelle? Je pense que c'est le moment de l'annoncer. Je quitte la radio.
Hey, c'est vrai?
Oui, on a vu ça.
Oui, une nouvelle, c'est sur Internet, donc sûrement c'est vrai. Je termine ma carrière radio en vous disant merci. Ça a été une belle ride, ça a été des belles années, mais je m'ouvre un refuge pour chats.
Oui.
Oui. Et ça va s'appeler « Il y a trop de beaux chats ». Il y a trop de beaux chats. Partout où je vais, il y a trop de beaux chats. Attachez-moi, retenez-moi, il y a trop de beaux chats.
Je vous jure que Denis va se transformer un jour en Crazy Cat Lady et qu'au lieu de parler d'un gars qui a des chiens en meute dans un petit village, ça va être un ancien animateur de radio qui a trop de chats chez eux puis qui s'est rendu insalubre puis il va falloir venir à son aide.
Mes chats.
Mais pas ça.
Mes deux chats sont dans le sous-sol, puis c'est rendu que je le chante ça quand je descends.
Oh non.
Il y a trop de beaux chats quand je vais en bas. Il y a trop de beaux chats. Ma blonde parle, je suis viré fou.
Ben, honnêtement, c'est...
Tu te le demandes, ouais, c'est beau.
Non, mais c'est quoi les premiers signes de la démence? Je demande pour un collègue.
Il a essayé le chat avant.
Je sais.
Il est rendu accro bien raide.
J'avais aucune sympathie pour les chats, puis c'est une conversion. Comme quand je suis passé du Canadien de Montréal au Bruins de Boston. Des fois, il faut juste être ouvert aux nouvelles expériences pour trouver sa vraie nature.
Restez là, Denis nous parle de la luge à deux la semaine prochaine.
Mon débat sportif pour la semaine prochaine, la luge à deux, top ou bottom? 16h04.
Oui!
Non, mais il faut connaître ses forces.
418-971-1021. Vous faites de la luge à deux. Vous êtes top, ah ben vous êtes bottom. 418-971-1021. On vient, ce sera pas long. C'est pas vrai, là. Je pars pas de refuge. Puis la femme qui a fait de la radio longtemps et qui a ouvert un refuge d'animaux.